Bonjour à tout le monde. Alors, j'aimerais nous inviter à lire deux portions des Écritures tirées du livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2. Nous lirons d'abord du verset 2 au verset 4e. Et puis nous prendrons aussi la fourchette allant du verset 17 au verset 20. Donc, Néhémie 2, 2 à 4. 17 à 20. Et puis nous prendrons la seconde portion, Néhémie chapitre 4e. Et là, nous lirons du premier au quatrième verset, puis le dixième, puis le verset 10, puis le verset 21 à 22. Alors, je vais faire rapidement la première lecture. Néhémie au chapitre 2. Les rois me disent, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur, je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que les rois vivent éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. Verset 17 au verset 20. Je leur dis, voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez. Rébâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et dire, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat les Horonites, Tobija les serviteurs Ammonites et Geshem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent et dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir en Jérusalem. Néhémie chapitre 4, du 1er au 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les seront-ils faire? Vont-ils sacrifier? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'Ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où il soit captif, verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille, verset 21, ainsi que verset 22. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition de l'étoile. Et dans ce même temps, j'ai dit encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant les jours. Amen. Reconstruire sur d'anciennes ruines. Hier, nous avons, en introduisant ces sujets, nous avons eu à faire mention d'un certain nombre de choses. Nous avons essayé de nous mettre d'accord sur le contenu du terme ruine. Mais aussi, nous avons parlé des types de ruines. Et parlant des types de ruines, nous avons dit que les ruines pouvaient être physiques, c'est-à-dire palpables, visible, matériel, mais nous avons dit aussi que les ruines pouvaient être spirituelles, donc invisibles. Les ruines pouvaient être morales, émotionnelles, sentimentales et même spirituelles. Et nous avons toujours, en ajoutant, parlant sur les ruines, nous avons dit qu'on pouvait vivre les ruines dans plusieurs domaines de notre vie. Sur les domaines, dans le domaine de la santé, j'allais dire, la maladie qui s'invite. Dans les domaines spirituels, nous pouvons connaître des ruines sur le plan relationnel, relation entre conjoints et conjointes, relation familiale, relation entre amis. Les ruines pouvaient être une réalité attachée à notre vie des couples, à notre vie des familles, à notre vie avec nos enfants. Nous devons aussi connaître les ruines sur le plan professionnel. Les affaires qui ne marchent pas, faillite, dette. On veut démarrer dans un certain domaine, on investit. Et puis tout tombe en moule, en éclat. Mais il faut aussi connaître la ruine sur le plan ministériel. Mais comme nous avons essayé de le dire déjà depuis hier, que le premier pas et le plus important pour sortir des ruines, il était important de savoir qu'il y en avait. Prendre conscience que tout était perdu, tout s'était écroulé. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un deuxième aspect qui est important, qui nous aide dans la reconstruction. Et ça, nous voyons ça chez Néhémie, un ingrédient aussi important, la foi. Pas de reconstruction de ruines sans la foi. Mais avant de toucher la foi, j'aimerais toujours, partant de Néhémie, dire aussi, certes, les ruines peuvent s'inviter dans notre vie, mais les ruines, quelquefois, ne peuvent ne pas nous toucher, nous, directement. Ça touche quelqu'un à qui nous sommes connectés, et puisque nous sommes connectés à cette personne, directement ou indirectement, nous sommes aussi touchés. Du reste, Néhémie est un exemple, Néhémie chapitre 2, versets 2 à 3. Si nous sommes étudiants de la parole de Dieu, nous savons que Néhémie était à Suse. Il vivait dans une condition où il ne manquait de rien. Il avait tout. Il avait des grandes responsabilités dans cette nation étrangère. Il avait une qualité de vie. Je m'imagine, vu son rang, il devait avoir des servants, des serviteurs. Mais il était lié comme par un cordon ombilical avec sa nation. Et la Bible dit, lorsqu'il a appris que les portes de Jérusalem étaient détruites, les murailles étaient totalement en moule. Tristesse a envahi son cœur. Et Néhémie chapitre 2, versets 2 à 3, il est entre les travailleurs à côté de ses rois, et il semble qu'on, pour une première fois, les rois les voient tristes. Il dit, j'ai jamais vu Néhémie ayant un tel visage. Et puis il pose la question, pourquoi as-tu mauvais visage? Écoutez sa réponse. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville ou le sépulcre de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Lui-même n'a aucun problème. Mais c'est la nation à laquelle il est attaché qui a un problème. Les ruines peuvent toucher quelqu'un qui est attaché à nous, notre mari, notre femme, notre enfant, notre frère, notre cousin, notre ami, et ça nous touche aussi. Je vois cet exemple de 2 Samuel chapitre 12, versets 16 à 17. Étonnant, ces rois qui jour après jour recevaient les gens dans son bureau, recevaient les gens en audience pour réfléchir, résoudre les problèmes du pays. Et il semble pour quelques jours, la nation connaît un arrêt. La nation s'arrête. Les choses ne marchent pas comme elles auraient dû marcher. Non pas que David a personnellement un problème, mais c'est quelqu'un connecté à lui. 2 Samuel 12, 16 à 17. L'enfant que David avait eu avec Bathsheba est malade. Le verset 15 même dit, cet enfant était dangereusement malade. Écoutez ce que la Bible dit. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Le verset 15, « Et Nathan s'en alla dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté, et il fut dangereusement malade. » C'est pas directement David, c'est cet enfant. Écoutez la suite. « David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. » Verset 17, « Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres, mais il ne voulut point manger, il ne mangea rien avec eux. » Les versets qui suivent nous dit qu'il est resté comme ça 7 jours durant. On vient le chercher. David, le roi tel vient te parler avec toi pour que vous puissiez signer un traité en rapport avec tel minéraire. Il dit, j'ai pas le temps pour ça. Non pas que lui, il a un problème, mais quelqu'un avec qui il est attaché, ruiné dans son corps. Et pour David, tout s'arrête. Je citerai encore Marc au chapitre 9. Verset 22, quand ces chefs de la synagogue, cet homme qui était censé non seulement connaître la loi, mais l'enseigner. Et les chefs de synagogue étaient censés passer minimum 10 heures au temple, répondre à toutes sortes de questions que les gens pouvaient avoir en rapport avec la parole de Dieu. Et cet homme laisse la synagogue, il laisse les gens assoiffés, les gens ont des questions pour lesquelles ils n'obtiendront pas de réponses, parce que celui qui aurait dû donner des réponses n'est pas dispo. Il n'est pas dispo non pas parce qu'il le veut, il n'est pas dispo non pas parce que lui-même a un problème, mais parce que quelqu'un avec qui il est connecté a un problème, sa santé est ruinée, son fils. Il est en quête de Jésus-Christ, il le cherche partout. Et quand il trouve un certain groupe de personnes, ce sont des gens qui sont attachés à Jésus. Jésus est sous la montagne de la transfiguration. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés. Ils ont essayé de trouver solution au problème de son enfant, ils n'en trouvent pas. Et quand Christ descend de la montagne de transfiguration, il vient avec cet enfant. Il dit, j'ai amené cet enfant auprès de tes disciples. Ils n'ont pu rien faire. Et écoutez les cris que ses papas lancent. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, bizarre, écoutez ce qu'il dit. Viens, non pas à son secours. Viens à notre secours. Bizarre. Il dit pas, viens au secours de mon enfant. Il dit, viens à notre secours. Et puis il ajoute encore, aie compassion, non pas de lui. Aie compassion de nous. C'est une partie de moi qui souffre. Et je ne peux pas, moi, rester comme si de rien n'était. Et devant les ruines, et devant les dégâts, nous avons trois options principales qui se présentent devant nous. La première option, c'est ne pas savoir ce qui va se passer. Manquer de foi. Et là, c'est l'exemple d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible nous parle. Ah, ça, c'est le genre de pèlerinage que j'aimerais pas que Dieu me fasse connaître. Dieu amène son serviteur dans la vallée des ossements desséchés. 37. Et non seulement qu'il amène dans cette vallée, et une vallée bizarre, mais il ne laisse pas avoir une vue lointaine. 37. Il ne laisse pas avoir une vue lointaine de la situation. Il amène au plus proche du problème, afin qu'il puisse avoir conscience de jusqu'où les dégâts ont été causés. Et la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit, me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Écoutez ce que le verset 2 dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Il veut pas qu'il ait une vue lointaine. Je veux que tu constates jusqu'où les dégâts sont allés. Et écoutez ce que le prophète dit, et voici, les ossements étaient fort nombreux. Et il constate, ils étaient complètement secs. Et le temps qu'ils prennent conscience de jusqu'où ils sont secs, une question, et drôle des questions, lui est posée. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et on voit sa réponse diplomatique. C'est une manière de dire non, mais diplomatique. J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Pourquoi il a vu tellement ce sec, il dit, aïe, aïe, aïe. Est-ce que là, il y a encore possibilité d'un retour à l'état initial? Oh, mais Dieu, si j'ai dit que ça peut pas, il va dire, je manque de foi. Je veux dire non diplomatiquement, Seigneur. Tu le sais. Mais on sent qu'il croit plus beaucoup. Deuxième attitude que l'on peut avoir vis-à-vis des ruines et des dégâts, c'est ne plus croire, ne plus espérer, ne plus s'attendre à un retour à un état initial plaisant. Marc chapitre 5, verset 35 nous en parle. Cet homme est venu chercher Christ, pour que Christ aille changer la condition de son enfant. Et puis voilà, sur la route vers la maison, quelque chose se passe. Christ est retardé par une femme qui a aussi un besoin. Et pendant que Christ parlait à cette femme, elle lui dit, comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage les maîtres? Le temps d'un retour à l'état initial est passé. C'est déjà allé trop loin. Il aurait pu guérir. Mais la mort, il n'y a plus rien à faire. C'est un état de non-retour. Abandonne. Ne crois plus. Et la troisième attitude, c'est celle de Néhémie, qui a osé croire que les ruines pouvaient se relever, qui a osé croire que les décombres pouvaient laisser place à quelque chose de différent, à quelque chose de meilleur. Et c'est parce qu'il croyait que les choses pouvaient changer qu'il a posé toutes sortes d'actes que nous avons vus. Qu'il a premièrement prié. Qu'il a osé aller affronter le roi pour lui faire une demande. Donne-moi telle chose. Donne-moi telle autre chose. Je finirai avec ça. C'est parce qu'il avait cet ingrédient qu'il a osé retourner. En retournant, certes, il a vu avec ses yeux jusqu'où les dégâts ont été causés.
Mais il a su communiquer quelque chose aux autres en disant, lèvons-nous et bâtissons. Nous pouvons rebâtir ces murailles. Néhémie, est-ce que tu vois la même chose que nous? Néhémie, tu ne vois pas jusqu'où les dégâts sont allés en profondeur. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et même, nous l'avons lu, alors que des adversaires s'allèvent, Tobija, l'Ammonite et d'autres, il dit en priant, Seigneur, donne-nous du succès. Nous croyons qu'il est possible que des choses puissent changer. Et soutenu par cet ingrédient, en 52 jours, Néhémie, par la grâce de Dieu, a transformé un chaos en un bijou. Il a transformé des décombres en un trophée. Je prie que sur le chemin de votre vie, de votre marche avec Dieu, que vous et moi, nous puissions avoir des trophées de la foi. Des choses que nous pourrons retenir en disant, ça, c'est parce que je crus en Dieu. Ça, c'est parce que je marchais à contre-courant. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais utiliser tout ce que je peux avoir comme souffle dans mes poumons pour te dire, la foi, ça marche. Et par rapport à cet ingrédient qu'est la foi, j'aimerais ce matin faire mention de quatre grands principes. Le premier principe que je voudrais mentionner par rapport à la foi, c'est qu'il y a deux types de foi. Il y a deux types de foi. Il y a la foi naturelle et puis il y a la foi spirituelle. La foi naturelle, presque tout le monde l'a, même celui qui n'est pas enfant de Dieu. La foi spirituelle, seule une poignée de personnes dont vous et moi. La foi naturelle, nous l'utilisons souvent, consciemment ou inconsciemment. Cette foi, vous l'avez utilisée en venant ici. Cette foi vous a fait croire, à vous qui comme moi pesez 89 kilos, ça vous a fait croire que ce morceau de ferraille et de bois, fabriqué par je ne sais qui pèse 3 kilos, pouvait vous soutenir. C'est la foi qui vous a fait asseoir. Malgré vos 89 kilos comme moi, en venant vous avez regardé cette histoire, quelqu'un aurait pu dire, mais non, mais moi je pèse 67 kilos, cette histoire, c'est la foi. La foi vous fait monter dans un avion. Vous ne demandez pas, montrez-moi la licence du pilote. Montrez-moi ses notes en cours de décollage. Est-ce qu'il réussissait toujours ses décollages? J'aimerais avant de monter, croire. Vous vous libérez facilement vis-à-vis d'un inconnu en mettant votre vie en jeu. Vous décollez avec et vous atterrissez. La foi fait que vous lâchez votre vie entre les mains d'un chirurgien qui va tripoter votre corps, l'ouvrir, sans assurance qu'il pourra bien fermer et ne rien oublier dedans. La foi naturelle, nous l'utilisons même en prenant des médicaments. Et même, il est prouvé en médecine aujourd'hui qu'il y a médicaments qu'on appelle des placebos, qui n'ont aucun effet actif. Mais c'est simplement la foi. On te dit, ça si tu prends, une heure après, tu auras un sommeil comme si ça fait 10 ans que tu n'as pas dormi. Et pourtant, il n'y a rien. On a mis juste un peu quelques... Et puis tu prends toi un peu 30 minutes, mais mes paupières pèsent. Ça, c'est la foi naturelle. Nous l'utilisons. Cette foi naturelle me fait croire que c'est parce qu'il y a un principe qui a été établi. J'appuie sur l'interrupteur et la lumière. Je prie même pas pour ça. Je viens, j'appuie et je sais. Et si ça s'allume, je trouve que c'est anormal. Mais au-delà de cette foi naturelle, il y a la foi spirituelle. La foi spirituelle tire sa source en Dieu. Quand je dis tire sa source en Dieu, elle tire sa source de la connaissance que l'on a de sa personne, de ce qu'il est, de ce dont il est capable. Et cette connaissance que l'on a de Dieu, on l'a au travers de sa parole. En lisant la parole de Dieu chaque jour, on découvre le Dieu créateur. Mais on peut aussi l'avoir par révélation. Dieu nous permet d'une manière surnaturelle de le connaître. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. J'aimerais dire, l'usine qui fabrique la foi, c'est la parole de Dieu. Lisez-la, relisez-la, étudiez-la. Et vous allez découvrir le Dieu de la Bible et votre foi va grandir.
Dans Hébreux chapitre 11, verset 1 ainsi que verset 6, la Bible nous donne deux types d'informations supplémentaires et importantes attachées à la foi. La première information nous présente la foi comme un mystère. Écoutez ce que la Bible dit. La foi est une ferme assurance, mais des choses qu'on espère. Une assurance, mais une assurance ferme. Elle va plus loin en disant, elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne les voit pas encore, mais on a une assurance. La foi est inexplicable. On raconte l'histoire d'un père de famille qui travaillait un jour, et vous savez, les petits enfants, quand ils dépassent l'âge de 2-3 ans, ils commencent à avoir des questions existentielles. Et des questions pour lesquelles des fois on pense être intelligent jusqu'à ce qu'on confronte ses enfants. Et qu'on se rende compte qu'on n'est pas si intelligent que ça. Ils aiment bien les pourquoi du pourquoi. Je me souviens un jour, je pense que notre fille, la quatrième, elle devait avoir 3 ou 4 ans, elle me demandait, papa, pourquoi marchant la tête en haut et les jambes en bas? J'ai dit, je pensais être savant, j'ai dit, mais parce que Dieu le veut. Et puis elle est restée calme, elle me dit, et pourquoi Dieu le veut? Je lui ai dit, attends, moi je reviens. Depuis lors, je suis jamais revenu. Pensons toujours avoir des réponses et pourtant on n'en a pas. Un jour cet homme, un vrai enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, servant Dieu avec toute sa famille, il a vu son petit garçon de 3 ans et demi venir lui poser la question, papa, la foi, c'est quoi la foi? Vous savez, c'est pas évident d'expliquer cela à un enfant. Tu vas pas lui dire la foi en grec, ça veut dire. Il a des fils, je te l'expliquerai un jour. Et un jour, alors qu'il était en train de travailler dans sa cave, à ranger les choses, et son fils est venu, dit, papa, j'aimerais descendre là où tu es, est-ce que tu peux tenir l'escalier pour moi? Il a dit, je veux bien que tu descendes, mais attends. Papa a enlevé l'escalier. Puis il a éteint, tout était noir. Il a dit, fils, saute, tu vas tomber dans mes bras. Il dit, papa, je vois pas là où tu es, dis-moi, je te vois très bien. Et même si tu dévis, je saurais suivre ta trajectoire et ta voie. Il dit, mais papa, je suis pas sûr. Il dit, fais-moi confiance. Saute, tu tomberas dans mes bras. Et le petit garçon est resté. Papa a dit, saute. Papa a dit, saute. Et puis papa a dit, saute. Le voyage a paru un siècle et puis, paf, dans les bras de papa. Papa a rallumé, a dit, fils, je te souviens, il y a quelques mois, tu m'avais demandé c'était quoi la foi. C'est ce que tu viens de faire. Tu as cru en ce que j'ai dit et tu as osé. Aidez-moi à dire à votre voisin, la foi, ça marche. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et deuxième information que Hébreux 11, 6 nous apporte, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non seulement la croyance, mais aussi savoir que Dieu rétribue. Il est le rémunérateur. Dieu paye toujours la foi. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, attaché toujours à cette reconstruction partant des ruines. J'aimerais nous dire qu'il y a des degrés de foi. Il y a des degrés de foi. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie en rapport avec la foi. Et vous allez essayer vous-même avec moi de vous retrouver dans quelle hiérarchie vous êtes ce matin. Et dans cette hiérarchie attachée à la foi, dans les degrés de foi, le premier degré de la foi, c'est l'absence de foi. Si quelqu'un ici, si on mettait les thermomètres de la foi, on verra 0 degré. Le mercure ne bouge pas. L'absence de foi, que la Bible appelle l'incrédulité. Et cette incrédulité peut avoir plusieurs raisons. Notre background, notre arrière-plan, les a priori que nous avons, les expériences négatives par lesquelles nous sommes passés, les choses qu'on nous a dites. Dans Marc chapitre 9, versets 22 à 24, un père amène certes son enfant vers Christ pour obtenir la guérison, mais il dira à Jésus-Christ au verset 22, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Si tu peux, pas très sûr,
Écoutez la réponse de Jésus au verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et au verset 24, j'aime la sincérité de cet homme. Aussitôt, le père de cet enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il reconnaît. Et la meilleure traduction, c'est, je veux croire. Viens au secours de ma difficulté à croire. Je crois pas trop, c'est pourquoi il dit, si tu peux. Je viens pas trop parce que je crois, j'ai essayé partout, ça n'a pas marché, je dis bon, allons-y, si il échoue, ça sera quelqu'un qui aura échoué en plus. Viens au secours de mon incrédulité. Le deuxième degré de foi, c'est ce que la Bible appelle peu de foi. C'est-à-dire, la foi, elle existe, mais elle est minime, elle est faible, facilement ébranlable par la contrariété, par les temps qui passent. Mon pasteur me disait, parmi les assassins de la foi, c'est souvent les temps qui passent et qui n'apportent pas des signaux qu'on aurait voulu voir. Dans Matthieu chapitre 8, versets 25 à 26, alors que le vent s'élève sur la mer et commence à menacer la barque dans laquelle Jésus ainsi que ses disciples se trouvaient, la Bible parle de deux choses qui se passent. Premièrement, l'attitude des disciples et deuxièmement, la réaction de Jésus. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il dit pas qu'ils manquent de foi, mais ils ont une foi petite, minime. Foi qui existe, mais dès l'instant, il y a eu quelques contrariétés. Ils ont eu à paniquer, gens de peu de foi. Troisième degré de foi, c'est une petite foi. Il y a peu de foi et petite foi. La petite foi, c'est une foi qui existe, mais qui a besoin d'être exercée comme un muscle pour grandir et mûrir. Elle est certes là, mais elle n'est pas si grande que ça, mais déjà elle peut faire beaucoup. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, ainsi que Luc chapitre 17, verset 6, la Bible nous parle de cette petite foi, mais capable de faire beaucoup de choses. Et Jésus, en la comparant, Jésus la compare à l'un des grains les plus petits de l'époque. Marc chapitre 4, verset 31, nous dit qu'à l'époque, les grains les plus petits parmi les grains qui étaient découverts, c'était les grains de Sénévée. Et Jésus-Christ compare cette foi au grain de Sénévé. Écoutez ce qu'il dit. Si vous avez une foi comme les grains, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit-il. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi, il dit, elle ne doit pas être grande. Comme un grain de Sénévé. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Elle se transporterait. Waouh. Et écoutez ce qu'il dit. Rien ne vous serait impossible. Non pas en ayant une grande foi, mais une petite foi. Comme les grains de Sénévé. Luc chapitre 17 au verset 6. Avant, il avait parlé des grains de Sénévé, certes, mais il a parlé de transporter une montagne. Et là, il dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de Sénévé, vous diriez à ces sycomores, waouh, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et la Bible dit, il vous obéirez. Elle est petite, mais elle peut déjà beaucoup faire. Quatrième degré, et je prie que nous tous nous parvenions à ce degré. Moi, je suis encore au niveau de la petite foi, je suis en train de grandir, mes muscles spirituels sont en train de travailler. Je fais de la musculation spirituelle. Quatrième degré, c'est la grande foi. Grande en taille, grande en teneur. Cette foi, elle est inébranlable. Cette foi ne doute pas un instant. Elle n'est pas facile à ébranler. Elle n'est pas facile à combattre. Très difficile à détruire. Cette foi, elle est presque jusqu'au boutiste. Elle résiste à tous les obstacles, ou presque tout. Et dans le ministère de Jésus-Christ, nous retrouvons le terme de la grande foi, deux fois au minimum. Ces deux lectures sont assez longues, mais je préfère qu'on les fasse dans leur totalité pour mieux saisir la pensée. Luc chapitre 7, verset 2 jusqu'au verset 9e, bien que il ait fait mention de la grande foi au verset 9e. Luc chapitre 7e, du verset 2 jusqu'au verset 9. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ruine. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Et là, c'est la foi. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, était guère éloigné de la maison, quand les centeniers envoyaient des amis pour dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Waouh, écoutez le parallélisme et l'analogie que cet homme fait. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, un seul mot, verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai dit à des soldats sous mes ordres, j'ai dit à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il est fait. Pour dire, toi, tu as la capacité de dire un mot, tu n'as pas besoin de te déplacer. Écoutez la réaction de Jésus. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers. Et se tournant vers la foule qui les suivait, dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme a une foi, elle n'est pas peu, elle n'est pas petite, elle est grande. Seigneur, donne-moi ce genre de foi, la grande foi. Matthieu chapitre 15, verset 21 au verset 28. 15e chapitre de Matthieu, verset 21 jusqu'au verset 28. Là, c'est la deuxième fois où il est fait mention d'une foi, mais d'une foi grande. Jésus étant parti de là, s'est retiré dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons, encore des ruines. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière. » Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé, je n'ai plutôt été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. » Ah, mais j'aime. Elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » dit-elle. Et les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle est la réaction de Jésus-Christ à la fin, verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et ma Bible dit, « À l'heure même, sa fille fut guérie. » Trois obstacles qui n'ont pas pu arrêter cette femme. Le premier obstacle, c'est le silence. Elle présente un besoin, une requête sérieusement. Ma fille est cruellement tourmentée. Jésus qui marche, qui regarde. Ma fille est cruellement tourmentée. Et les disciples qui sont plus royalistes que les rois disent, Seigneur, si tu ne veux pas l'exaucer, renvoie-la. Notre évangile dit, parce qu'elle nous dérange. Parce que moi, j'ai un problème avec vous. Elle nous dérange. Ah, après le silence vient un deuxième obstacle, des paroles dures. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël. Dites à cette femme qu'elle n'est pas sélective ou éligible pour les choses qu'elle demande. Elle est trop audacieuse. Tout pour arrêter quelqu'un. Et malgré cet obstacle, la Bible dit que cette femme vient se prosterner à ses pieds. Et alors qu'elle est à ses pieds, suppliant, aïe, 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 Jésus monte d'un cran en obstacle. Des femmes, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux chiens. Ça, c'est moi. J'aurais été cette femme à cette place. Je dis, papa, si tu veux rien me donner, mais je n'ai pas chien quand même. Tu as la liberté de me donner ou de ne pas me donner. Mais ne va pas jusqu'à m'abaisser. Mais elle avait une grande foi. Elle dit, les chiens mangent même les miettes. Si le pain, c'est pour les enfants, les Israélites, donne-leur le pain. J'aimerais en coupant que tu t'arranges, qu'il y ait les miettes. Je veux pas la bénédiction, je veux les miettes de la bénédiction. Et ce qui est étonnant, le même Jésus qui était silencieux, les mêmes qui avaient dit qu'elle n'était pas éligible, les mêmes qui avaient dit qu'elle ne pouvait pas avoir ça, se retournent et disent, ta foi est grande. Va. Et la Bible dit, qu'il te soit fait comme tu le veux. Ça dépend pas de moi. Et ma Bible dit, à l'heure même, sa fille fut guérie. Donne-moi quelqu'un qui a une grande foi. Cinquième degré, attaché à la foi, ça, je l'ai de temps en temps. J'aime souvent dire, quand j'enseigne sur ça, je dis, comme des gens ont des crises d'épilepsie de temps en temps, crises de malaria, crises d'estomac, moi j'ai des crises de ces derniers degrés. Je l'ai pas souvent, ça vient de temps en temps. C'est le don des foi. Le don des foi, c'est une réalité mentionnée dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. C'est une foi spéciale, une foi particulière. C'est le degré le plus élevé de la foi, que d'autres théologiens appellent la foi de Dieu. C'est-à-dire les genres de foi que Dieu a, qui les rend capables d'opérer. J'aimerais déjà, à ce niveau, dire que le don de foi est différent de la foi normale et de toutes sortes de foi que j'ai mentionnées. La foi normale demande la participation de l'homme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans la foi normale, il y a la parole de Dieu et je m'attache à cela. Il y a la promesse de Dieu et je m'attache à cela. Mais dans les dons de Dieu, dans les dons, la foi comme don, c'est un dépôt que le Saint-Esprit vient déposer dans le cœur d'un croyant. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne aux croyants par le Saint-Esprit. Et par rapport à ces dons qui sont attachés aux dons spirituels en général, c'est un don auquel on peut aspirer. Parce qu'en Corinthiens 14, 1 dit « aspirez aux dons spirituels ». Ayez soif d'avoir cela. Et je dois vous assurer, au début de ma foi, quand j'ai découvert ces dons, j'ai prié Dieu qui me les donne. Je jeûnais et je finis par l'avoir et je l'exprime souvent. Deuxième aspect particulier de ces dons, c'est que ces dons tirent sa source dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on ne peut l'exprimer que quand on est en communion avec le Saint-Esprit. On ne peut l'exprimer que si on est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et je voudrais rapidement faire mention de cinq petites choses concernant ces dons. Première chose, ces dons est un besoin pour tous les croyants, mais surtout pour les responsables. Surtout pour les hommes et les femmes qui se tiennent devant. Les hommes qui sont des leaders, des maris, des épouses, pourquoi pas, des responsables des départements, des pasteurs, dirigeants d'entreprise, ceux eux seuls sur qui les regards des autres sont fixés. Ils ont besoin de ce don. Deuxième chose que je voudrais dire concernant ce don, c'est que il est dû à un dépôt que le Saint-Esprit place dans le cœur du croyant en un moment particulier. Et qui les rend capables de voir les choses différemment. Et parce qu'ils voient les choses différemment, ils agissent différemment et ils parlent différemment. Nous verrons tout à l'heure quand je donnerai quelques exemples. Quand ce don est là, parce qu'il vous fait voir les choses différemment, il vous donne un langage différent. Ce langage peut paraître de l'arrogance. Et même ça peut donner l'impression d'être de l'irresponsabilité. Mais le grand problème, c'est que il est dû à ce dépôt qui vous fait voir la même réalité, mais différemment. Les autres qui n'ont pas ces dépôts ne vous comprennent pas. C'est pourquoi ne cherchez pas à être toujours compris de tout le monde. Combien de fois des gens ont eu ces dépôts, mais à cause de trop de pression, ils ont dévalué. Comme disait quelqu'un, si tu manques de constance dans la foi, il y a des gens qui peuvent subir une révision à ta vision. Tu l'avais fortement, fermement, mais on te parle, vu ça, vu entendu, que tu dis, et puis vu ça, et puis finalement tu fais toute autre chose que la chose que Dieu t'avait déposée dans le cœur. Troisième chose attachée à ces dons qui est très important, lorsqu'on l'a, on ne croit pas, on n'espère pas, on sait, J'aimerais vraiment donner toute la nuance et la différence. La foi normale croit. Elle s'agrippe. Elle espère. Mais quand c'est les dons de foi, on sait. On sait de manière inébranlable. Les dons de foi nous font sauter les phases d'opinion pour nous amener à une phase de conviction. Conviction forte. Ça deviendra encore plus clair tout à l'heure avec les deux exemples ou les trois exemples que je vais donner. Quatrième chose attachée à ces dons de foi. Ce don de foi est un chemin solitaire. Il vous sépare des autres et même d'autres croyants. Pourquoi? Parce qu'il vous fait évoluer dans un autre monde, dans une autre sphère, dans une autre dimension. Vous pouvez même être incompris de votre femme, incompris de votre mari, incompris de vos collaborateurs. Cinquième chose attachée à ces dons minimisent les obstacles ainsi que l'adversité. Ces dons vous font voir déjà la finalité heureuse avant la fin. Et la Bible nous donne trois grands exemples de l'exercice du don de foi. Le temps me manquerait de tout lire, je vous donne le devoir de lire. Exode chapitre 14, versets 10 à 14, on voit la première fois où ces dons est exercé. Moïse amène les enfants d'Israël en dehors de l'Égypte. Ils sont là devant, ils ont deux obstacles. Premièrement, un obstacle naturel, la mer. Et derrière, un obstacle, l'armée égyptienne. Et ils se mettent à se plaindre. Moïse, n'avait-il pas des sépulcres en Égypte pour que tu puisses nous laisser mourir, l'être enterré dignement? Mais écoutez la réponse de Moïse. Ces Égyptiens que vous voyez, vous les verrez. Ils se demandaient ce qu'ils voient la même chose que nous. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Ça, c'est nous amène à un suicide collectif. Et il ajoute encore, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Il combattra où? Où ici? Va-t-il placer un pont? Ah, c'est pour cela qu'il est bon en tant que leader de savoir écouter Dieu. Quand vous écoutez Dieu, vous pouvez aller dans une direction et amener toutes les autres personnes. Si j'avais été une femme, bon, je ne le serais jamais. Si j'avais été, je serais amoureux d'un homme qui a un don de foi. Pas des hommes qui tremblent à la première facture. On dit qu'il fait, si on ne paye pas d'ici 3 jours, on est mort. Il commence à souhaiter le retour de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 17, verset 32 à 37, ainsi que le verset 46 à 48, on voit ces dons de foi être exercés par David. Il y a un géant qui depuis 40 jours lance un défi et personne ne répond. La Bible dit, chaque fois que Goliath avançait, tout Israël reculait. Et quand lui il vient, il souhaite pas. Il va dire que personne ne se trouve. J'irai combattre ces Philistins. Quelqu'un les regarde petit. Tu n'as même pas un numéro matricule dans l'armée. Même pas une petite formation et puis tu es petit de taille, adolescent, non pas avec la barbe, mais avec la barbichette. Et tu sens encore le lait maternel, il est même possible que tu aies un biberon sous ton... Et on l'amène devant, puis il y a un bruit en Israël. Vois ça, il semble qu'il y a espoir. Quelqu'un dit qu'il va combattre Goliath et Saül s'attend à voir quelqu'un de costaud, aussi costaud que... Et puis il voit un tout petit garçon. Il dit, mon Dieu, soyez responsable quand même. Et il regarde David dans les yeux et dit, tu ne peux pas aller combattre. Tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre de sa jeunesse. J'aime bien. Ça, il faut minimiser les gens. Il faut lui laisser. Des fois, vous voyez quelqu'un d'insignifiant, mais il a un palmarès. Et quand il finit de parler, David regarde Saül dans les yeux et dit, un jour, j'étais en train de garder les troupeaux de mon père et j'ai tué un ours. Oh! Celui-là, il a tué un ours. Il dit, un jour aussi, il y avait un lion, voilà ce que j'ai fait. Puis Saül a fini par lâcher. Vas-y. Le plus étonnant, c'est quand il s'avance devant Goliath. Il dit à Goliath, je t'ai coupé la tête. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Waouh. Ça, c'est, on se demande, est-ce qu'il voit la même chose? Est-ce que ça, c'est pas de l'irresponsabilité? Pourquoi? Parce qu'il y a un dépôt. Dépôt dans son cœur. Ah, j'ai connu tellement d'expériences dans ma marche en tant qu'enfant de Dieu, en tant que responsable. Combien de fois n'ai-je pas vu les dons des fois exercés. J'ai encore en mémoire, nous étions en train d'organiser une grande campagne d'évangélisation. Nous avons tout budgétisé. Et alors que nous avons commencé, puis voilà, 3 jours avant l'activité, les choses ont changé et le budget a été augmenté de 2000 parce qu'il fallait prendre en compte certaines choses auxquelles nous n'avons pas pensé, des imprévus. Et on s'est retrouvé lors de cette réunion, alors qu'on était à 10 parmi les responsables, on avait une équipe de responsables de 20, on a trié 10 et moi je faisais partie des 10. Et après avoir réfléchi, 8 on était unanime qu'il fallait reporter l'activité parce que déjà le peu d'argent qu'on avait, on a eu difficilement. Et on ne voyait pas en 3 jours comment on allait avoir ce montant supplémentaire de 2 000 $. On a demandé que l'on puisse passer au vote, qu'on a voulu voter notre numéro 1, qui est maintenant en Afrique du Sud. L'apôtre Veille a dit, il n'y a pas vote. Dieu m'a dit que nous aurons cette activité, nous aurons l'argent. Vous savez, j'étais content d'être moi et de ne pas être lui. On l'a regardé, ok, on va voir si ça va marcher. 2 jours avant l'événement, rien n'est marché. 1 jour avant l'événement, toujours rien. 6 heures avant l'événement. L'un de nous est allé dire, c'est vrai, tu avais dit que Dieu t'a dit, mais on constate que rien n'a marché. Il y a quelques imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et il est resté calme, il a dit, je reste encore d'aplomb sur ce que je vous avais dit. On aura cette activité et on aura l'argent. 2 heures, non 3 heures, parce que l'activité commençait à 15 heures du soir, à 12:05. Une dame est venue toquer à la porte là où on avait la réunion. Il est venu dire, j'aurais dû venir il y a 2 jours. J'ai manqué l'épée. Tu as béni mon mari dans une activité. Et depuis 2 jours, je sens dans mon cœur de vous amener un montant. Vous savez quoi, c'était pas 2 100 $. C'était pas 1 995. C'était 2000, 2 000. Elle a donné cette enveloppe. Dès qu'on a donné l'enveloppe, c'est quelqu'un d'autre qui allait. Et quand on a annoncé, on était à 20 dans la petite salle. On s'est mis à danser. En général, je suis pas bon danseur. Danser comme les Africains savent le faire. Et bizarre, alors que nous tous on dansait, on s'est rendu compte que, au lieu de 20 personnes qui dansaient, il y avait 19 qui dansaient. Notre numéro 1 ne dansait pas. Alors, l'un de nous est allé vers lui, mais, Pasteur V, tu n'es pas content que Dieu a agi? Il a dit, non, vous avez entendu de voir l'exaucement pour danser. Moi, j'avais dansé avant. Tant de fois. Tant de fois. J'ai encore en mémoire, c'est un sujet français. Carlos, peut-être mon épouse, peuvent s'en souvenir. Notre pasteur qui, auprès du Seigneur, le pasteur Vernon, avait voyagé, il lui a laissé l'église durant 6 mois. Il s'appelait Jean-Claude Wavre. Il a fait l'armée française au Tchad. Un homme de Dieu qui évoluait dans les charismes. Wow. Et puis nous étions là au mois de fin mars, début avril. On s'est préparé à célébrer la Pâque et il y avait tellement du monde à l'église. Le pasteur Vernon disait qu'on allait attendre un peu pour casser l'église et puis agrandir. Vu quand il est arrivé un mois après, il a dit, j'ai la conviction qu'on doit agrandir la salle. Et pour la Pâque, comme c'est la saison pluvieuse, on n'aimerait pas que les gens puissent être dehors, que tout le monde soit dedans. Je me souviens, on a fait un petit budget pour qu'on puisse tout casser, agrandir. Ça faisait combien? Ça faisait quasiment 12 000 $. Il a demandé combien il y avait à la caisse. On lui a dit il y avait 12 500. Il a dit, alors, videz-moi la caisse. J'ai jamais oublié notre trésorier, Papa Samba, un homme à la grosse moustache. Il a dit, nos rentrées mensuelles ne dépassent jamais 4 000. Si tu vides les salaires de tout le monde, ça fait un paquet de 7 000. Ne voyons pas où nous aurons les 7 000 avant telle date. J'oublierai jamais, Jean-Claude Wavran a dit, je prends tous les risques sur vous. Fais sortir l'argent, nous aurons et la paye, et nous aurons la Pâque. Ah, encore une fois, j'ai regardé, j'ai dit, j'étais content de m'appeler Roland Dallo, pas Jean-Claude Wavran. Et puis, tout a été lancé. En général, chez nous, à l'église, à l'époque, on payait les gens le 20, et jusqu'au 19 en caisse, il y avait que 800 $. J'ai jamais oublié notre trésorier, Papa Samba, il est venu dire, cet homme, le pasteur venu lui a laissé l'église, et il met l'église dans les troubles. Il dit, cette église existe depuis autant d'années, il n'y a jamais eu grève des travailleurs, mais à cause de sa folie, demain on aura grève. Et moi, je vous dirai, moi, je ne suis pas dans cette affaire. Et vous savez, la meilleure, c'est que 2 heures après, ce même trésorier, il vient nous voir, il nous dit en lingala, j'essaierai de traduire en français, il lui dit, Tato Yazandoki. Il dit, cet homme est un sorcier. On demande pourquoi, il dit, on n'arrive pas à comprendre. Il y a un monsieur du Kassai qui est dans les diamants. Il vient de donner une dîme de 14 000 dollars. La paix aura lieu, on aura encore plus. Quand Jean-Claude Wavon nous a vu, il a dit, laissez papa ça. C'est un chrétien naturel. Moi, je suis un chrétien surnaturel. Alors, aide-moi à poser la question à ton voisin, naturel ou surnaturel? Quand ce don est là, nous le voyons aussi dans 1 Roi chapitre 18, versets 27 à 30, ainsi que 34 à 37, quand Élie se trouve au mont Carmel. Il y a les dons des foi. Remarquez, quand les prophètes de Baal et d'Astarté prient, ils ne supposent même pas que leur prière va marcher. Ils sont en train de crier, de se déchirer. Ils disent, criez plus fort. Votre Dieu est en voyage. Il est d'un calme olympien. Et puis quand son temps vient pour prier, lisez. Vous sentez qu'il ne force rien. Seigneur, que l'on sache que je suis ton serviteur. Quelqu'un a dit, les gens qui n'ont pas la foi crient beaucoup. Les gens qui l'ont ne forcent pas. Alors, je me souviens quand j'étais jeune dans la foi, je pensais que pour faire la délivrance, il fallait la force spirituelle et physique. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'est plus la force spirituelle. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Réponds-moi, éternel, réponds-moi. Et même, pour montrer qu'il avait tellement foi en Dieu, il demande qu'on puisse jeter l'eau. Le contraire du feu. Je demanderai qu'on jette un peu de combustible pour que ça puisse faciliter les miracles. Don de foi. Alors tout ça, ça faisait partie du deuxième principe. Il y a des degrés de foi. Et rapidement, je vais aller vers ma conclusion pour que nous puissions prier toujours en rapport avec la reconstruction des ruines et avoir comme décombre, comme point de départ. C'est que la foi est un choix. La foi est un choix. Et même, j'aimerais dire, un choix risqué. La foi vous pousse à faire un choix qui vous fait prendre des risques. La foi vous expose à des dangers, à la possibilité de subir des dommages à cause de l'option que vous levez. Et comme choix, la foi vous pousse non seulement à croire, mais aussi à poser des actes ainsi que des actions. Romains 4, verset 18, parlant d'Abraham, c'est un merveilleux passage. Je disais un jour, au début de ma foi, je dis, ça c'est l'un des joyaux de la parole de Dieu. Je voudrais un jour, si toute ma Bible s'est brûlée, que cette partie reste. Écoutez ce que la Bible dit, parlant d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. J'aime bien deux versions dynamiques. Premièrement, la version Alfred Kuhn dit, alors que tout les poussa à ne pas croire, il décida de croire. Une autre version dynamique en anglais dit, alors que tout les poussait normalement à ne pas croire, il leva l'option de croire. La foi, c'est un choix. Mais j'insiste, un choix risqué. En français, on dit qu'il ne risque rien, à rien. Que des gens qui sont amoureux du risque zéro. Qu'il n'y ait pas de risque dans ce que je veux faire. Hébreux chapitre 11, verset 8. Verset 23 à 24, ainsi que verset 27, nous parle des initiatives prises par et à cause de la foi et des risques attachés. Écoutez ce que la Bible dit au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Écoutez ce que la Bible dit. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Risque. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Écoutez la fin. Et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Il y avait un ordre, vous osez faire ça, on vous arrête. Mais ils ont pris un risque qui a fabriqué un champion. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais le verset 27 ajoute encore, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Esther chapitre 4, Verset 15 ainsi que verset 16 nous parle encore de ces risques que cette femme a eu à prendre. Elle a fait parvenir ce message à Mardoché. Je jeûnerai, je prierai. 3 jours après, j'entrerai chez les rois malgré la loi. Et j'aime ce qu'elle dit. Si je dois périr, je périrai. Et j'aime ce que Esther 5, verset 1 à 3, alors qu'elle s'avance pour aller voir les rois, elle n'est pas sûre du résultat, mais elle ose. Est-ce qu'on va me recevoir? Le roi va-t-il lever son sceptre? Ou va-t-il demander qu'on puisse me tuer parce que le roi de l'époque craignait beaucoup les assassinats? Étonnant. Quand elle avance, écoute ce que le roi dit. Esther, je suis prêt à te donner même la moitié du royaume. J'aimerais dire à quelqu'un, la moitié du royaume, on ne l'a jamais en restant assis. La moitié du royaume, on l'a en osant aller. Combien de fois la moitié du royaume nous attend? Mais nous aimerions avoir tous les signaux possibles avant d'y aller. Et Néhémie, plein de fois, a pris des risques. Les risques de croire. Les risques d'oser faire la demande au roi. Les risques de débuter les travaux malgré le découragement. Les risques de continuer malgré l'adversité. Et je termine avec ces derniers points et puis j'ajouterai un autre à l'appendice. La foi honore Dieu. La foi plaît à Dieu. La foi rend Dieu crédible aux yeux des hommes. Romains chapitre 4 verset 20 dit Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et 1 Samuel 2, verset 30 dit, Dieu honore ce qu'il honore. Quand par la foi tu honores Dieu, Dieu en retour ne peut qu'être honoré. Et la foi, qui est quelque chose d'invisible, finit toujours par produire des choses palpables, des choses visibles. Mon épouse et moi, on a bien des trophées attachés à la foi. On a bien des risques qu'on a eu à prendre à cause et par la foi. Et tant me manquerait d'en parler ici. Les études des enfants nous ont allé par la foi parce qu'un dépôt était placé dans nos cœurs et les moyens ont suivi. J'aimerais dire, comme on fait souvent quand on fait les catchs américains, on écrit en bas, n'osez pas imiter, ne faites pas ça chez vous. J'aimerais aussi vous dire, si vous n'avez pas reçu ces dépôts comme nous, n'osez pas. Notre première fille a étudié aux États-Unis. Je pense toutes les 4 années, elle payait Minerva et autres, pas moins de $25,000. Mais je dois vous avouer au départ, on n'avait même pas 5. La première fois, je pense, j'étais en France, je suis venu faire un travail. On avait, je pense, que 1000 ou... Et on nous avait dit pour comme un point de départ, il fallait qu'elle verse, je pense, 9000, 9000 et demi pour son inscription. Et j'ai pris avec mon épouse, on a dit, on avance. J'étais en région parisienne. J'ai envoyé, je pense, $150 pour que son inscription soit assurée. Ah, j'entendrai quelqu'un. Ça ne marche qu'en Afrique. Alors, faut venir en Afrique. Et l'inscription a été confirmée. Et j'ai regardé, je pense, en caisse pour ses études. Là, c'était au mois de juillet. Elle va aller avec mon épouse pour sa première année, mi-août. On n'avait que $1,000. Et convaincu. Je rentre, je pense, 2 semaines après. Une sœur de l'église m'appelle et dit, « Pasteur, j'ai appris que ta fille va aller étudier aux États-Unis. Tu ne demandes pas aux tantes de participer. » Solidarité africaine, la bonne solidarité. Elle me demande d'aller la rencontrer en ville et puis j'arrive, elle me donne une enveloppe. Quand je vis l'enveloppe, je suis découragé. Je dis, oh, je pensais avoir affaire à une enveloppe obèse. Là, j'en ai une toute petite, c'est peut-être un billet de $100. Et j'ai ouvert, c'était un chèque. Et quand j'ai regardé, waouh, j'ai vu, c'était 6.4, 2-0, c'était pas écrit FC, franc congolais, il y avait un S et puis tiré comme ça. J'ai dit, waouh, alléluia, alléluia, ça commence pas à venir chez nous. Quand on est content, ça commence à viendre. Et il fallait verser 9000 pour qu'elle étudie. Et moins de 5 jours après, un de mes amis, qui travaille dans une entreprise des hommes d'affaires, chez nous, m'appelle et dit, Roland, j'avais levé l'option de participer au Minerval de ta fille aînée. Je suis dans une affaire, si ça marche, je vais contribuer. Et puis il est venu me voir un samedi, j'ai jamais oublié, vers 14 heures, j'ai vu l'ami, grosse enveloppe, un peu comme ça. Couleur brune. Il a commencé. Je savais que c'était pour moi, mais il commençait à parler. Et il parlait, et il parlait. Je disais, parle-moi du contenu, monsieur! Et puis finalement, on finit de parler. Il me dit, ah, raccompagne-moi vers les portails. Je dis, en plus, il prépare. Ce n'est quand on est arrivé devant les portails. Il dit, oh, Roland, j'allais oublier. Cette enveloppe, c'est pour toi. C'est pour notre fille. Ah, je l'ai juste fait rentrer dans son véhicule. J'ai dit, si je rentre jusqu'à la maison, aller vérifier, ça sera trop loin. J'ai juste fermé les portails, j'ai vérifié s'il était bien parti. J'ai ouvert, j'ai dit, waouh. Je regardais, il y avait 3 liasses de $100 et je suis fort en arithmétique, j'ai vu. Les liasses, c'est 25 billets, j'ai calculé, donc il y a déjà 7500. Et puis il y avait des billets en vrac, j'ai dit, waouh, donc minimum 7500. Puis j'ai compté, finalement, il y avait 9200. Je venais, j'ai vu mon épouse et la fille, j'ai dit, waouh, ma fille, tu es partie. La responsabilité qui est la norme. Elle voulait nous dire, tu as d'abord l'argent, tu prends l'inscription. Quand la foi agit, j'ai dit, on peut, j'ai dit pas on doit. Parce que je ne m'aurais pas apprécié que vous fassiez des dégâts en mon nom. Ça peut vous faire avancer. Mais j'insiste en disant, l'un des grands besoins de l'Église aujourd'hui, c'est la foi. Et je prie que durant ces quelques 5-10 minutes durant lesquelles nous allons nous mettre à genoux, que quelqu'un puisse devant Dieu dire, Seigneur, moi, je suis incrédule. Je manque de foi. Je suis trop cartésien, trop logique. Seigneur, moi, j'ai peu de foi. Facilement ébranlable. J'aimerais que les musiciens montent. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à chanter. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, fera. Il accomplira toutes ses promesses. Quelqu'un peut-être doit dire, Seigneur, j'ai une petite foi. Et comme j'ai dit, la petite foi, elle est déjà capable de beaucoup. Mais quelqu'un d'autre doit dire, Seigneur, donne-moi une grande foi. Donne-moi la foi que cette femme syrophénicienne avait. Donne-moi la foi que ces chefs romains avaient. Mais quelqu'un d'autre ira plus loin en disant, Seigneur, donne-moi les dons de foi. Ce don qui a été un dépôt dans le cœur de Moïse devant l'adversité. Je ne sais par quoi tu passes. Et son don de foi a accompagné Néhémie. Néhémie a cru que le chaos qu'il avait devant ses yeux pouvait être transformé en quelque chose d'autre. C'est parce qu'il avait la foi qu'il a quitté Suse. C'est parce qu'il avait la foi. Et j'aimerais dire, sa foi a produit. Sa foi a touché le cœur du pharaon. De son roi, qui lui a donné des lettres qui ont fait qu'il puisse avoir du bois, tout ce dont il avait besoin comme matériaux. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi, ça marche. La foi qui est non concrète, crée des choses concrètes. La foi qui est non palpable, crée des choses palpables et visibles. Quelqu'un doit crier ce matin, Seigneur, j'aimerais dans ma marche avoir des trophées de la foi. Au soir, de son expédition à Jérusalem, Néhémie pouvait regarder avec ses yeux, voir les conséquences de sa foi. Les murailles debout, les temples debout, le chaos qui a laissé la place à quelque chose. Et j'imagine, il pouvait se dire, waouh, ça valait la peine de prendre ces risques. Ça valait la peine de parler au roi. J'aimerais le crier encore à quelqu'un, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Je ne sais pas à qui je parle. Je priais ce matin aux alentours de 6h50, 6h55. Dieu me disait, il y a quelqu'un qui veut lâcher. Il y a quelqu'un qui veut reculer. Dieu m'a donné cette parole pour toi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Dieu m'a donné cette deuxième parole. Dans Hébreux, quand il est dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Il y a quelqu'un qui, comme ses papas, doit crier, viens au secours de mon incrédulité. Dieu, il est capable. Celui qui a fait pour Néhémie, le faire aussi pour toi. Je mets qu'en chantant ces cantiques, prends la position qui te semble meilleure, à genoux, debout. Si tu penses que tu dois faire les 100 pas pour prier, fais-les.